Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Notre invité déjà installé sur le plateau d'Africa Radio, j'accueille avec beaucoup de plaisir le reggaeman béninois Yaya Yaovi, l'un des précurseurs du reggae africain qui est de retour. Il vient nous présenter le premier extrait d'un album en préparation, le single Adjaka, où les questions de corruption, la corruption qui gangrène l'Afrique, une chanson comme un cri, comme une douleur, un message pour une prise de conscience sur l'impact de cette corruption généralisée en Afrique et au Bénin. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Africa Radio. Alors j'ai lu qu'Adjaka, c'est une souris, c'est ça?
Oui, c'est les souris, les rats, voilà qu'on appelle Adjaka.
Les souris, voilà. Les rats.
Et, ouais. Et moi, en fait, c'est tout simplement parce que j'étais en Afrique ces temps-ci, depuis pas mal de temps, et tous les jours, j'entendais dans la rue des gens crier « Adjaka voleur, Adjaka bandit ». C'est des vendeurs de raticides. Et là, ça m'a inspiré. J'ai dit « Ah, donc je vis parmi les rats ». Et voilà, donc ça m'a fait visualiser en fait ce que j'ai toujours vécu depuis tout petit.
Ouais.
Voilà. Et ça m'a inspiré, cette chanson, voilà.
Alors, vous parlez dans ce titre de la corruption qui gangrène l'Afrique. Pourquoi ce sujet?
Bah, parce que je vois la corruption partout dans le monde et depuis longtemps. Je me souviens, j'avais mon grand frère qui avait fait ses études de droit et de sciences politiques, qui était arrivé en Afrique et qui voulait pas qu'il y ait de népotisme dans son travail. Et j'ai vu comment tout le monde l'a traité, comment ça s'est passé. Et je regarde, j'observe autour de moi, même en Occident, je vois que c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un monde de plus en plus corrompu. Et ça nous a amené, donc ça me fait un peu peur. Non, pas peur, mais j'ai envie de dire aux gardes de faire attention, parce que c'est tout ça qui nous avait conduit à l'esclavage.
Alors, vous avez parcouru le monde avec votre musique, vous avez d'ailleurs vécu en France, il fut un temps, mais aujourd'hui ça fait partie de vos objectifs, bâtir, construire les bases de votre activité musicale sur le continent africain, au Bénin plus précisément. Et d'ailleurs vous avez depuis le début des années 2000 construit un centre culturel au Bénin qui a vocation donc de centre culturel, donc avec une scène équipée et un studio d'enregistrement, mais aussi un café, un lieu de rencontre, d'exposition et de conférence. Parlez-nous un petit peu de ce retour, comment vous l'avez conçu et pourquoi c'était important pour vous de revenir au pays et de vous y installer pour continuer votre travail.
Parce que quand j'étais parti de l'Afrique et que j'ai traversé le Sahara pour arriver ici, l'objectif c'était d'aller faire mes études et de retourner en Afrique pour travailler.
Ouais.
Finalement, je me suis retrouvé dans la musique avec un ami qui s'appelle Franz Joannel, qui n'est plus aujourd'hui, et qui était mon bassiste. Lui faisait Sciences Éco et moi je faisais du droit. Et donc on s'était rencontrés, on a décidé de monter ce groupe ensemble, Yaya Ntink, et on a commencé. Bien, donc depuis j'ai toujours pensé retourner en Afrique et puis faire profiter et de mon expérience aux frères qui sont restés là-bas. Et donc voilà, donc en plus avec le mouvement Rasta, parce que tout à l'heure vous avez dit reggae man, c'est pas un terme que moi j'aime beaucoup.
D'accord.
Moi je préfère le terme Rasta man, parce que
pourquoi
cette musique, c'est une musique de Rasta.
Ouais.
C'est les Rasta qui ont popularisé cette musique, et c'est personne d'autre. Et quand on dit reggae man en général, on efface un peu le côté rasta de ça. Or, ça, c'est très important dans ce mouvement, parce que ça nous a permis, c'est un mouvement qui prêche le retour en Afrique.
Ouais.
Parce que tant que ceux qui avaient été déportés ne retourneraient pas en Afrique et ne prendraient pas conscience que, en fait, c'était les princes, les princesses, les gens comme ça qui ont été déportés à l'époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique manque carrément de main-d'œuvre, de force vive pour faire bouger les choses. Et on voit encore, malheureusement en Afrique, beaucoup de misère, alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que l'Afrique soit misérable comme elle est aujourd'hui. Et quand je suis arrivé en Afrique, donc moi je suis parti avec mon projet. Si j'avais fini mes études de droit, que j'avais été avocat, je serais parti là-bas aussi travailler. Donc, puisque je fais de la musique, je pars là-bas et je construis ma base. C'est-à-dire, parce que pour faire de la musique, il faut des outils de production.
Oui.
Sinon, ça revient très cher. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui explique que j'ai sorti un album pratiquement tous les 10 ans. Et il y a un autre album qui se prépare et qui va être mon 4e album. Donc en Afrique, j'ai pensé à mettre en place les fondations de la base, parce que c'est pas terminé.
D'accord.
Il faut que j'équipe maintenant la scène, il faut que le studio soit fini.
Ouais.
Donc je suis en train de travailler sur tout ce projet-là. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que j'ai toujours voulu donner à l'Afrique le maximum, parce que l'Afrique, elle est belle, elle est grande, elle est... Voilà.
J'ai lu qu'il y avait également l'aspect un peu business, entre guillemets, puisque vous produisez des t-shirts qui sont un véritable succès à l'international. En fait, et grâce à cela, vous faites travailler les artisans de Cotonou, ce qui inscrit en fait cette démarche dans une démarche globale éthique. Donc, alors, ce sont des t-shirts à l'effigie des grands militants africains. Vous nous parlez un petit peu de ça ?
Ouais, parce que le mouvement Rasta, justement, ça fait partie de l'essence du mouvement Rasta, à savoir connaître notre histoire.
Ouais.
Quand vous écoutez Bob Marley, Peter Tosh, Ils nous disent que la moitié de l'histoire nous a pas été racontée. Très bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que maintenant pour la musique, il faut aussi les merchandising. Et les merchandising, il faudrait faire quelque chose qui ait rapport avec ce que je fais.
Ouais.
C'est pour ça que les sisters qui sont avec moi ont décidé de créer ICOM, qui est une association et qui fait des t-shirts et puis bien d'autres choses, parce que c'est encore ICOM qui a coproduit ou qui coproduit cet album qui va sortir.
Voilà.
Donc ça fait partie de tout un système qu'on essaie de mettre en place.
Voilà. Il y a Adjaka qui est sorti un album en préparation.
Ouais.
Alors où est-ce qu'il va être enregistré? Je sais que vous avez déjà enregistré notamment du côté de la Jamaïque pour votre album intitulé Deuxième Stop That Train qui est sorti en 83. Vous étiez parti à Kingston dans l'ambition de rencontrer Bob Marley. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Disons que quand j'avais sorti mon premier album qui est Release Time.
Ouais.
Je l'avais enregistré à Paris. J'avais senti quand même qu'il manquait, une vision un peu plus rasta de la chose.
Ouais.
Et j'avais toujours rêvé d'être produit par Bob Marley et c'était presque réalisé. Seulement que entre temps, Bob il est parti.
Ouais.
Donc moi j'avais décidé avec mes musiciens, j'ai dit bon écoutez les gars, bon on devait être produit par Bob, mais Bob n'est plus. Il faudrait qu'on aille quand même à Kingston en Jamaïque et dans le studio de Bob pour travailler. Et quand on était arrivé là-bas, le studio était d'ailleurs en panne. Depuis que Bob est parti, le studio n'a plus tourné et donc ils ont fait venir. Des gens, des ingénieurs des États-Unis, ils ont mis le studio en place, ils ont remis le studio en route et on a enregistré. Et c'est là que j'ai rencontré Family Man, Aston Barrett et bien d'autres, c'est-à-dire Waya et les autres. Et ils m'ont dit, écoute les gars, et la prochaine fois tu veux faire ton prochain disque, tu viens et puis on fait le travail. J'ai dit ok. Seulement quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à travailler sur l'album Seed.
Ouais.
J'ai plus pensé du tout à ça et je me prenais la tête avec les musicos à Paris, encore que j'avais les meilleurs musiciens comme les Paco Siri et bien d'autres.
D'accord.
Donc, je sais pas si c'est vraiment les musiciens ou si c'est les vibes dans le studio ou les vibes tout simplement dans le pays, je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à obtenir dans mon travail que je faisais ici.
Ouais.
Alors je me suis reposé un jour et puis j'ai eu une sorte de vision où Jam m'a parlé, il m'a dit mais toi là, on t'a dit de venir en Jamaïque enregistrer, t'es là à tourner en rond. Alors, du coup, quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, pourquoi? Donc, je suis parti, j'ai pris les visas, paf, paf, paf. Je suis retourné en Jamaïque, je les ai appelés, et puis je suis arrivé là-bas.
Et là,
voilà,
et
puis le travail a été fait très vite. En une semaine, on a booké le travail que je m'étais déjà, j'avais déjà mis 6 mois. À faire ici et que j'arrivais pas à le faire. Voilà. Et donc, quand j'ai voulu faire maintenant mon album, j'ai préféré aller directement en Jamaïque parce que je sais que c'est là que ça se passe pour moi. Voilà.
Alors, on va revenir en terre africaine, au Bénin plus précisément. On a eu beaucoup d'espoir lors de l'arrivée du président Talon à la tête du Bénin. Alors, quel est le constat aujourd'hui, culturellement parlant? Est-ce que les choses bougent? Est-ce que ça va un petit peu mieux? Je sais qu'il y a eu des budgets un peu qui ont été injectés pour la culture. Alors, quel est le bilan aujourd'hui, selon vous?
Écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce qui se passe en Afrique en général, sur le plan culturel, ça me pose de problèmes.
Ouais.
Parce que tout est politisé et tout est devenu, c'est les politiques qui veulent dessiner la culture africaine. Mais ils comprennent pas que la culture, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et que c'est nous qui devrons faire la culture d'Afrique d'aujourd'hui. Et donc, on se retrouve devant des gens qui pensent autrement, c'est-à-dire qui n'ont pas de vision du futur pour l'Afrique, et on est obligé de faire avec. Mais les choses, je ne peux pas dire que les choses bougent vraiment en Afrique. Pour moi, Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les choses bougent. J'ai vu, par exemple, quand j'étais arrivé là-bas, qu'ils avaient mis en place un budget pour la culture.
Ouais.
Mais en fait, qu'est-ce qui se passait ? Ils vous demandent de faire un projet, de présenter vos projets. Vous présentez le projet. Eh bien, s'ils acceptent votre projet, par exemple 50 millions CFA, eh bien, le ministre, il prend déjà 25 millions. Après, les autres, ils distribuent le reste. Il vous reste à peine 5 millions. Conséquence, les artistes qui ont cru profiter de ces fonds culturels se sont retrouvés à faire n'importe quoi. Parce que quand ils ont un projet qui vaut tant et qu'on leur donne que très peu, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'acheter une moto, ils ne font pas leur art et tout tombe à zéro. Voilà ce que j'ai vécu là-bas et j'ai vu tout ça et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal et j'ai pas supporté tout ça, mais bon, tant pis, moi je continue ma route avec mes moyens parce que je suis Rasta et que je continue à me battre, à essayer de faire passer le message de Selassie et sa majesté impériale Haïlé Selassie et que pour nous, c'est le nouveau nom que le Christ porte, voilà. Et que nous, on est derrière et on continue la lutte.
C'est d'une vie de conviction, qui a commencé très tôt à Yaouvi. C'est une vie de conviction, de combat.
Ma vie, bah, de toute façon, je suis obligé, c'est que ça. C'est mon engagement. Depuis tout petit, j'ai toujours senti les choses de certaines manières et qui n'est pas pareil que pour les autres. Et que de toute façon, ma vie, elle est devenue une vie de combat, de conviction, tout ce que vous voulez. Mais ouais. Bon, c'est mon parcours qui m'amène là, tout simplement. Parce que depuis tout petit, j'ai vécu que des choses un peu bizarres. J'ai observé, j'ai vu que quand j'écoutais, quand j'étais tout petit, je voulais écouter de la musique. Bon, mais mon papa, bon, les jours où j'allais pas à l'école, il me mettait le gramophone et je passais ma journée à écouter. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que j'étais intéressé plus par la musique africaine-américaine,
ouais.
qui en fait, et par la suite, j'ai découvert Jimmy Cliff.
Ouais.
Et Jimmy Cliff avec Vietnam. Et je suis arrivé à Paris et j'ai découvert les Wailers.
Ouais.
Et j'ai compris à partir de là que c'était plus le message et la vie de ces gens-là qui m'intéressaient, même plus que la musique elle-même. Et voilà, donc moi, quand je suis arrivé dans la musique, après je me suis posé la question, est-ce la musique qui me branche ou est-ce le véhiculé de la musique ? Et je me suis rendu compte que les deux vont de pair.
Un dernier mot au public qui nous écoute ce matin, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Est-ce que j'ai envie de leur dire, c'est de prendre courage, de comprendre qu'on vient de très loin, nous sommes ceux qui avons traversé la grande tribulation et que maintenant le soleil va se lever. Mais ça dépend que de nous. Il faut tout simplement se battre et ne jamais laisser tomber, baisser les bras. Et quand on croit à quelque chose, il faut y aller. Et puis, ne pas penser que la réussite, c'est forcément d'avoir de l'argent. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça vraiment à tous mes frères, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yaya.
C'est moi qui vous remercie.
Vous livrer sur le plateau d'Africa Radio et nous parler d'Adjaka. C'est le single qui annonce l'album en fin de préparation. N'hésitez pas à aller sur Internet pour voir le clip, par exemple, ou écouter Adjaka. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Africa Radio.
C'est moi qui vous remercie.
Dans un instant, c'est la pause. Prochain rendez-vous avec Roudiamba et les traditions africaines. Ça arrive dans quelques minutes.
Tribunal or that chatter. Attaque.